Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Tu meurs si on donne 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
À la même heure la semaine dernière, les bookmakers britanniques n'arrivaient pas franchement à savoir sur qui il fallait parier pour succéder à David Cameron. Le Premier ministre britannique et son adversaire travailliste Ed Miliband étaient annoncés au coude à coude. On connaît désormais le fin mot de l'histoire puisque ce coude à coude s'est soldé par un gros coup de coude pour le parti travailliste et par la démission d'Ed Miliband. David Cameron, heureux, peut donc laisser ses meubles au 10 Downing Street pour encore 5 ans. L'autre surprise de ce scrutin, c'était l'échec du UKIP, ce parti europhobe mené par Nigel Farage qui a lui aussi rendu l'éponge et jeté son tablier. Sauf qu'il reste un peu du UKIP dans les déclarations de David Cameron. À l'heure où l'Union européenne s'interroge sur ses moyens d'accueil des migrants venus notamment de Méditerranée, le Premier ministre britannique, lui, remet en cause les droits des migrants européens au Royaume-Uni qu'il juge trop généreux, selon un article du Courrier international. Un article qui ajoute que David Cameron voudrait notamment que les migrants n'aient accès à un logement social ou à certaines aides de l'État qu'après avoir passé 4 ans sur le sol britannique. Nigel Farage a donc démissionné, mais qu'il se rassure, son héritage vivra.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez Romain Boulet. Il est le directeur du festival Nantais Performance qui aura lieu de vendredi à dimanche. Mais d'abord, comme tous les mois et pour la dernière fois de la saison, on reçoit Angers Mag pour décrypter l'actualité. Tennis, photojournalisme, théâtre en plein air, vivre ensemble, tout ça et le reste, on en cause tout de suite.
Au-delà de l'Afrique, de la Mauritanie, c'est l'Afrique et qui nous regarde aussi. Ce continent extraordinaire dont on parle rarement dans sa beauté, dans sa force, mais c'est un continent extraordinaire, beau et fort, qui nous regarde aussi aujourd'hui.
Deux grands portraits de la photographe sont disposés de chaque côté de la scène pour un hommage rendu promenade du bout du monde à Angers. Le lieu n'est pas choisi par hasard, le bout du monde, c'est ce que Camille Lepage avait choisi de montrer dans son travail.
L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République. J'ai forcément changé à la suite de ces événements. Ces épreuves ont aussi changé notre pays. Il ne le sait pas encore, mais il a éprouvé une grande fierté avec un grand malheur et une capacité à se rassembler.
Pour renforcer la cohésion nationale...
Vous êtes en tort, monsieur. Vous avez dépassé 12 heures, j'aurais très bien pu arriver ici à 0h10.
On aurait pu être là à 0h01 si on avait voulu. Je suis fatigué.
Excusez-moi. Non, c'est chez nous, monsieur.
Écoutez, monsieur, calmez-vous, parce que comme nous sommes arrivés ici il y a 15 jours, on a eu le même problème et on n'a pas fait autant d'histoires.
Si vous avez envie de vous laisser marcher sur les pieds, ça vous regarde. Moi, j'ai acheté cet appartement du 15 au 30. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet.
Abderrahmane Sissako, Camille Lepage, cohésion nationale, Gérard Jugnot et un peu de Nicolas Mahut entre tout ça. Jour férié, pont en tout genre, le mois de mai c'est le bonheur, sauf quand on doit sortir un magazine un vendredi. Bonjour Sébastien Rochard.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Angers Mag, dont le numéro 27 est donc sorti aujourd'hui. La petite nouveauté, c'est que vous tentez de réduire votre bilan carbone ce mois-ci, et votre distributeur c'est désormais un vélo-taxi, c'est une prise de conscience de longue date ?
De longue date, non. Enfin, ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Après, c'est l'opportunité des contrats, des départs et des arrivées qui a fait qu'on a pu faire ça. Pierre Jolivet, c'est pas un inconnu pour nous. C'est celui qui va assurer la distribution en vélo. En grande partie en vélo, notamment pour le centre-ville. Après, pour tout ce qui concerne l'agglomération, évidemment, ça se fera en voiture. Mais on avait fait son portrait dans nos pages initiatives. Voilà, quand était né justement son taxi vélo à l'époque. Donc voilà, c'est une opportunité de travailler avec lui. Nous, on est plutôt très content de le faire parce qu'effectivement, notre bilan carbone, ça nous soucie. Même si on a d'autres soucis au-delà de ça. Mais non, c'est important de le faire, donc on l'a fait. Et on est content.
Entrons dans ce numéro 27 dans lequel vous consacrez un article à la question de la cohésion sociale avec un constat amer, abstention, tension dans les quartiers. Angers n'est donc pas préservé de la tension actuelle en France, Sébastien Rochard.
Non, 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 non. Et, enfin, ce serait bizarre que ce soit là, autrement d'ailleurs. Oui, il y a pas mal de tensions qui sont issues, enfin, qui ont été révélées, mises à jour encore plus sans doute par le 7 janvier et les jours, les semaines qui ont suivi. Voilà, parce qu'il y a une déconnexion sans doute des politiques avec le territoire, une déconnexion de l'associatif aussi. Par le biais des maisons de quartier qui répondent pas forcément aux attentes des habitants. Et puis, voilà, il y a des tensions dans l'éducation. Donc tout ça crée un climat qui est assez compliqué. Alors ça date pas du 7 janvier, hein, c'est bien antérieur à ça, mais ça a été renforcé et mis en lumière en tout cas par le 7 janvier.
Et donc fin avril, le maire Christophe Béchu a présenté un projet de rénovation urbaine pour les quartiers de Belle-Baye et Montplaisir qui s'inscrit dans un contrat ville unique à hauteur de 4 millions d'euros annuels, c'est ça ?
Oui, annuel. Ouais.
Pourquoi faire ? Il y aura quoi dans ce contrat et plus précisément sur ce projet de rénovation urbaine dans les quartiers ?
Alors, le projet de rénovation urbaine fait partie du contrat de ville unique, ce qui est une grande nouveauté d'ailleurs, puisque ce contrat de ville unique, il était précédé avant par un contrat urbain de cohésion sociale, je ne vais pas vous assommer avec les termes, mais qui ne prenait pas en compte l'ensemble des politiques sociales que pouvait mener la ville. Donc là, le projet de rénovation urbaine, il est contenu dans ce contrat de ville unique. Sur le projet de rénovation urbaine en tant que tel, je ne peux pas vous en dire énormément parce qu'il a commencé à le présenter, il l'a présenté à Belle-Baye la semaine passée en réunion publique. Il va le présenter à Montplaisir dans quelques semaines. Ils en sont pourtant, enfin pour l'instant, au stade de présentation pour savoir un petit peu combien d'argent ils vont pouvoir récupérer de la part de l'État. Et on saura exactement l'argent qu'ils vont pouvoir récupérer et puis ce qu'ils vont en faire l'année prochaine. Après, l'objectif, c'est de créer de la cohésion sociale dans ces quartiers, notamment en retrouvant une vie économique, une vie sociale, en essayant de retrouver des cœurs de quartier, et puis en essayant de les réinvestir, quoi. Parce que c'est des fois des quartiers où on ne va plus du tout.
Et les urgences, c'est ça, donc ? C'est d'y retourner.
Allez, les urgences, c'est d'y retourner. Nous, on l'a bien vu depuis le début de l'année dans les différentes tribunes du lundi. Ça, c'est sur le site internet qu'on constate tous les lundis à des acteurs de la société civile, associatifs, tout ça. On avait décidé après le 7 janvier de s'arrêter sur ces quartiers. Et puis encore plus après les élections départementales, où il y a eu un vote FN qui était extrêmement fort dans ces quartiers-là, notamment au premier tour. Donc on a donné la parole aux associatifs et qui nous ont dit, ben non, il y a effectivement une vraie rupture, quoi. Il faut faire quelque chose parce qu'on est dans un climat qui devient très pesant, voire un petit peu délétère.
On change de sujet. Il y a un an, presque jour pour jour, le 12 mai 2014, Camille Lepage, photojournaliste angevine de 26 ans, mourait assassinée en Centrafrique. Vous avez rencontré sa mère pour ce numéro, Marie-Vonne Lepage, qui depuis se bat pour continuer à faire vivre le travail de sa fille, notamment par le biais d'une asso qui est née en septembre. Si vous lui avez consacré un portrait, est-ce que c'est parce que vous aviez vous aussi peur qu'on oublie le travail de Camille Lepage, dont on a beaucoup parlé en 2014 ?
Peur qu'on oublie, je sais pas. Il y a toujours un risque. Après... Je ne sais pas si nous, on a des yeux qui déforment un petit peu parce qu'on est tout le temps collé à l'actualité, mais moi, personnellement, ce qui m'avait marqué, c'était le visage de Camille Lepage, l'exposition qui avait eu lieu au Grand Théâtre. Elle avait eu lieu au mois de décembre et prolongée au mois de janvier. Donc elle avait toujours lieu quand ont eu lieu les événements du 7 janvier. Et il y avait ce regard extrêmement perçant et magnifique de Camille Lepage qui veillait un petit peu sur la foule qui était là. Et on se dit, ce regard, il faut qu'il se prolonge. Et le travail de Camille, Marie-Yvonne, sa maman, le prolonge aussi. On a eu envie d'aller la revoir aussi, parce que ce qui nous avait marqué à l'époque, ce qui avait marqué beaucoup d'observateurs aussi, c'est la dignité de cette maman-là. Elle le dit d'ailleurs dans le portrait, elle l'avait déjà dit, mais elle n'a refusé aucune interview. Une, je crois, maximum, je ne sais plus pour qui d'ailleurs. Mais parce qu'elle voulait que la parole et l'œil de Camille vivent à travers elle. Et c'est ce combat-là qu'elle continue. C'est vraiment faire vivre le travail de sa fille. On s'amende de rien parce que on le dit, on le rappelle dans l'édito, le travail de Camille Lepage, on l'a tous découvert, ou pour la plupart, après sa mort. Donc voilà, est-ce qu'on cherche à se rattraper ? Je crois pas. C'est vraiment faire vivre son travail qui était le travail d'une grande professionnelle, même si elle avait 26 ans. Tout le monde est assez scotché et elle avait des contrats un petit peu partout. Rappeler aussi la précarité dans laquelle elle travaillait, ça c'est toujours important. Et puis, faire vivre la parole de Camille à travers le combat de sa maman qui reste toujours aussi digne, on le voit dans le très beau portrait que lui a consacré Yves Boiteau.
Aujourd'hui d'ailleurs, on n'entend plus parler de la Centrafrique que lorsqu'une accusation de viol par des militaires sur des enfants éclate. Est-ce qu'on manque de place pour l'Afrique en général, le continent, dans les médias nationaux ? Et est-ce qu'on peut en parler dans les médias locaux d'une actualité si lointaine ?
Alors, les médias nationaux, je vais commencer par ça. Je pense qu'ils se traitent de cette actualité-là. Peut-être moins bien que de l'autre actualité, d'une actualité économique, nationale, tout ça. Après, c'est une question de moyens. L'histoire de Camille Lepage a douloureusement rappelé aussi que c'était pas facile de travailler dans ces zones-là, la plupart du temps. Peut-être qu'on prend pas assez de temps, qu'on prend pas assez de risques. C'est pas le même journaliste, quoi. On a changé, on est dans une société du zapping. Le journalisme n'échappe pas à cette règle, j'en suis le premier, désolé. Mais je pense que les médias nationaux font encore plutôt leur travail, quoi. C'est peut-être pas avec assez de moyens, mais ils font encore leur travail de ce point de vue-là. Pour les médias locaux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est des médias locaux. Donc forcément, il faut qu'il y ait un point d'entrée qui soit local. Faut pas que ce soit un prétexte non plus. J'estime qu'il faut qu'il y ait vraiment du fond. Nous, on l'a fait en GMAG. Là, je pense qu'il y a du fond avec le portrait de Marie-Yvonne Lepage. Il y en avait eu aussi quand on avait fait on a raconté l'histoire de ce violon, du luthier Patrick Robin. Jean-Michel Delage était parti faire un reportage photo là-bas, en Palestine. Voilà, il faut pas que ce soit un prétexte, l'ancrage local. Il faut qu'il y ait vraiment du fond. Donc ça se fait plus rare forcément, mais quand il y a du fond, eh ben, on n'hésite pas à y consacrer 2 pages, 3 pages, 4 pages s'il le faut.
Et en tout cas, Angèle Afrique, on va en parler au mois de mai, car le Festival Cinéma d'Afrique s'installera au Grand Théâtre du 26 au 31 mai prochain. Dans votre édito de ce numéro 27, vous soulignez d'ailleurs ce que vous appelez une étrange coïncidence. Je cite « Pour la première fois depuis sa création, le Festival Cinéma d'Afrique s'installera dans les murs du Grand Théâtre d'Angers, là même où des milliers d'Angevins ont découvert il y a 6 mois le travail de Camille Lepage à travers l'exposition qui lui a été consacrée. Cinéma d'Afrique au Grand Théâtre, est-ce que ça veut dire plus de visibilité pour le festival ?»
Ben, je le souhaite pour eux, ce serait bien. Et en même temps, se parler avec Camille Lepage, il était... Moi, il m'a semblé évident, en tout cas. Parce qu'on parle encore une fois de regard, c'est-à-dire le regard qu'elle portait sur l'Afrique et comment elle témoignait de l'Afrique à travers ses photos. Et Cinéma d'Afrique, c'est la même chose. Quel regard il nous apporte, nous, sur l'Afrique, puisqu'on rappelle que c'est uniquement des réalisateurs africains qui parlent de l'Afrique. Donc c'est des films qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sortiront pas en salle. Ou très très peu. Donc c'est une autre découverte et je pense que ça va leur donner plus de visibilité, ouais, effectivement.
Hormis le cinéma d'Afrique, dans vos pages culture, vous nous présentez Aurélien Dougé, un jeune danseur et chorégraphe qui a créé sa propre compagnie il y a plus d'1 an, Incorpor Company, je ne sais pas si c'est bien prononcé, et pourtant il était plutôt fait pour le judo, celui-là.
Pour le judo, ouais, c'est vrai. Il faisait du judo quand il était môme, et puis il a été assisté à une séance de danse de sa sœur à Favre-et-Machel, joli petit village angevin, du côté du Thouarsais. Voilà, et puis ben, ça lui a plu. C'était plus comme un défi au début, leur dire ben, je vais leur montrer que je peux faire de la danse moi aussi. Et puis il se trouve qu'il avait des qualités naturelles absolument fantastiques. Donc ça a été très vite. Il a commencé très très tard pour un danseur classique, à 13 ou 14 ans. Et puis il a rattrapé les étapes, tout ça. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est ce qui l'a toujours intéressé, c'est la création et la chorégraphie. Donc là, il réalise son rêve depuis un peu plus d'1 an, mais c'est un rêve qui s'est construit. Tout au long d'une dizaine d'années quoi, de pratique de la danse, et puis de collaboration avec des photographes, avec des gens de théâtre, avec des gens de cinéma. Voilà, c'est un cheminement progressif, mais il a toujours voulu créer, il a réussi. Il revient pour la première fois présenter une de ses pièces au Festival Village en Seine, je crois que c'est en fin de mois, le 30 mai.
À Chalonne-sur-Loire, le 30 mai, oui. Ah ouais.
Une pièce qui s'appelle Dark Rise, qui a une portée symbolique aussi très forte pour lui. Puisque c'est l'histoire, c'est comment le corps réagit à l'agression, à des agressions extérieures. Là, c'est le cancer. Et c'est issu des discussions avec sa tante. Voilà, il a monté ce spectacle qui est extrêmement fort en charge émotionnelle pour lui. Il vient le présenter pour la première fois chez lui. Donc, retour chez lui, c'est vraiment un chouette type. Et puis, alors moi, j'ai pas vu le spectacle, très clairement, puisqu'il a été donné une fois à la Biennale de la danse à Lyon. En septembre dernier, mais ça a l'air, les photos sont en tout cas magnifiques et ça donne vraiment envie d'y croire et d'y aller.
Tout autre sujet, celui qui fait votre une ce mois-ci, c'est du sport. C'est de sport qu'il s'agit puisque vous consacrez votre rencontre du mois au tennisman Nicolas Mahut. Consacrer cette longue interview à un sportif, c'est plutôt rare, non ?
Oui, c'est rare, mais le sport, c'est une information comme une autre. On a souvent tendance à catégoriser un petit peu les choses. Voilà, il y a plein de choses derrière les sportifs. Alors voilà, on peut être d'accord, on peut trouver qu'ils sont pas assez intelligents, tout ça, mais c'est une vraie actualité. Et puis la plupart du temps, ils se révèlent qu'ils ont des choses à dire. J'espère que c'est le cas avec Nicolas Mahut. On n'a pas été le choisir au hasard, c'est quand même un joueur qui est dans le top 100 depuis top 100 ou 150 mondial depuis une dizaine d'années. C'est un Angevin pur jus qui est hyper attaché à son territoire et à l'Anjou. Et puis voilà, l'actualité fait que Roland Garros va bientôt commencer, il y aura Wimbledon derrière. Il a une histoire très forte avec Wimbledon puisqu'il a disputé il y a 5 ans maintenant, cette année sera le 5e anniversaire, le match le plus long de l'histoire du tennis. Donc voilà, il avait plein de choses à nous raconter et on a pris plaisir à le rencontrer.
Oui, c'est quel genre de personnage que vous avez rencontré ?
C'est quelqu'un de très droit, de très ponctuel, de très honnête.
Ponctuel, c'est important.
Ponctuel, c'est hyper important pour lui. Mais il nous l'a dit, mais c'est quelqu'un de très cash, quoi. Enfin, vraiment, il répond avec sincérité à toutes les questions qu'on peut lui poser. Même si c'est parfois surprenant, on a fait le questionnaire de Proust, et je lui ai demandé sa chanson préférée. Et il m'a répondu la Marseillaise. Voilà, donc il y a un côté patriote chez lui, mais qui s'explique aussi par le fait qu'il a connu sa première sélection en équipe de France de Coupe Davis il y a maintenant un mois et demi, deux mois. Et c'est quelque chose de très fort pour lui, mais peut-être que certains auraient été gênés de répondre ça. Lui, c'est sorti vraiment tout seul. Donc, une chouette rencontre. Encore une fois, un type vraiment sincère et qui a envie de s'investir après sa carrière. Il a 33 ans, donc ça va pas tarder. Même si j'espère qu'il va continuer encore un petit bout de temps, et qu'il veut se réinvestir dans la région angevine. Donc voilà.
On le reverra donc.
J'espère.
On continue cette discussion juste après Secretos de Samba avec Solens. Si c'est possible d'écouter de la musique.
Sem balar.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on est avec Sébastien Rochard et on décortique l'actu angevine via Angers Mag. Hein. Et dans ce numéro 27, vous nous avez glissé une petite surprise, c'est cadeau, c'est bonus, c'est une série consacrée...
C'est toujours cadeau, Angers Mag.
C'est vrai. C'est double, quoi, là, c'est double. Un supplément Festival d'Anjou, le festival de théâtre qui aura lieu du 8 au 27 juin au château du Plessis-Massé et au Grand Théâtre d'Angers, après 38 ans en dehors de la ville. Et dans le hors-série, vous retracez cette histoire qui est en fait ni plus ni moins une histoire politique, quoi.
Mais c'est pas ni plus ni moins, c'est une histoire politique, purement politique. Ouais, ça nous semblait intéressant. Enfin, déjà, c'est le retour à Angers, qui est l'événement de ce festival, ça c'est clair. Donc on l'a décliné sous plusieurs angles, dont l'angle historique. On revient vraiment, on dit que c'est une histoire politique depuis le début, ce festival-là, depuis le début des années 50 où ça a été créé, dans la veine de la libération. Donc on revient sur ces premières années, et puis on revient aussi sur la rupture politique, on va dire, qui a entraîné le départ du festival, qui était d'abord le Festival d'Angers, qui est devenu Festival d'Anjou en 1975, et puis en 1978, la rupture entre deux personnalités politiques assez prégnantes à l'époque, Jean Sauvage, qui allait devenir en 82, je crois, président du Conseil Général du Maine-et-Loire, et puis le nouveau maire d'Angers en 1977, Jean Monnier, socialiste, donc un à droite, l'autre à gauche, qui se sont fâchés, voilà. Jean Monnier a dit, moi je veux plus du festival, je veux plus que vous veniez dans les monuments gratuitement, il va falloir louer. Donc Jean Sauvage en a profité pour dire, c'est plus le festival d'Angers, c'est le festival d'Anjou de toute façon, donc on viendra pas. Et puis il y a eu des tentatives de rabibochage, comme on dit, notamment sous l'ère Jean-Claude Brialy, mais les différents responsables politiques qui se sont succédés n'ont pas réussi à trouver terrain d'accord jusqu'aux élections de l'année dernière qui ont effectivement réconcilié tout le monde, puisque c'est maintenant la mairie et le conseil général sont du même bord, entre guillemets.
Et ce qui est assez fou, en fait, quand on lit cet article, c'est d'apprendre que le festival d'Anjou, dès ses débuts en 50, à la base, c'est un festival qui permet la promotion touristique de l'Anjou.
Oui, ouais. C'est un événement qui a été créé dans le cadre de la semaine touristique de l'Anjou, qui était porté par le comité départemental du tourisme, d'ailleurs. Et dont les principaux acteurs à l'époque, quand on retrouve les archives qui doivent être du Courrier de l'Ouest, je pense notamment, ils s'en cachent pas, quoi. Ils disent que c'est d'abord un événement touristique. C'était pour développer l'image de l'Anjou à l'extérieur. Il y a eu un grand raout, je crois, en 1952, à Paris, dans le cadre de la semaine touristique de l'Anjou, pour présenter cet événement, mais qui devait être qu'un one-shot au début, quand ça a été joué à Brissac. C'était pas au château d'Angers d'ailleurs déjà parce qu'il était en rénovation, donc c'est pour ça que ça avait lieu à Brissac. Et puis ça a tellement bien marché que ça a continué, et ensuite c'est le talent des directeurs artistiques qui se sont succédés qui a pris le pas sur le côté touristique, et c'est devenu vraiment un événement artistique et culturel à part entière.
Et quand est-ce qu'on pourrait voir le festival d'Anjou au château d'Angers?
C'est le dernier défi, on va dire. Enfin, le dernier défi, il en aura sans doute d'autres derrière, mais c'est une citadelle à conquérir, comme on dit. C'est l'objectif de Nicolas Briançon, qui est le directeur artistique, dont on a beaucoup dit qu'il allait partir, mais finalement il part pas, parce qu'il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, ce retour à Angers qu'il a toujours souhaité et qui s'opère enfin. Et son dernier grand objectif, c'est d'éventuellement céder la main, c'est le retour au château d'Angers. Mais là, ça dépend. Alors, c'est toujours une histoire politique, mais ça dépend pas de la politique locale. Ça dépend vraiment c'est un monument historique. Donc c'est géré par les monuments historiques, donc il faut voir ça avec eux, il faut qu'il y ait une autorisation du ministère de la Culture. Il y a beaucoup plus de normes de sécurité qu'à l'époque où ça jouait au château d'Angers, puisque le haut lieu, il faut peut-être le rappeler, le haut lieu du château d'Angers, enfin du festival d'Angers puis d'Anjou, ça a toujours été le château d'Angers, jusqu'en 1900, au milieu des années 70. Donc c'est vraiment l'objectif de revenir là, dans ces murs-là.
Et dans cette série consacrée au Festival d'Anjou, la rencontre, elle est consacrée à Gérard Jugnot, qui viendra jouer un François Pignon de Francis Weber dans Cher Trésor, une pièce qui en est à plus de 500 représentations. Dans l'éventail des acteurs présents sur le festival, pourquoi Gérard Jugnot?
Parce que il réunit tout ce qu'il y a de bien. C'est un comédien, il nous semblait extrêmement populaire. Depuis le Splendide, mais on voit dans l'interview, alors on l'a pas découvert parce qu'on l'avait déjà vu intervenir sur des sujets et d'autres, mais on découvre qu'il y a énormément de profondeur chez ce type là et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc ça nous intéressait d'avoir ces deux côtés là, populaires mais en même temps exigeants, et puis qui présente une pièce où il cartonne avec un personnage Alors légendaire, c'est peut-être beaucoup dire, mais François Pignon, voilà, c'est quand même
c'est un peu culte,
extrêmement que c'est culte. Voilà. Donc voilà, ça nous semblait très intéressant de l'avoir lui.
Vous parlez de la profondeur du personnage de l'acteur Gérard Jugnot qui dit « Avec le Front National, la culture ne fait pas juste que passer après, elle est sacrifiée. Avec ces gens-là, ce n'est pas très bien de penser. » Est-ce que vous pensez, alors sans parler forcément de Gérard Jugnot, mais que dans le contexte actuel, les artistes, les acteurs culturels vont avoir de moins en moins de problèmes à s'exprimer sur la politique?
Je sais pas, ça va dépendre de la place qu'ils prennent aussi. Je veux dire, au niveau médiatique, ils sont quand même largement représentés. Le fait de s'afficher comme ça, comme Gérard Jugnot, ça me semble assez salutaire. Parce qu'effectivement, les temps sont difficiles. Sans parler du Front National, hein, on peut voir que les premiers budgets qui trinquent, Jugnot le rappelle hein, d'ailleurs, et nous on le voit au niveau local, les premiers budgets qui trinquent, c'est ceux de la culture. On le voit aussi à travers tous les festivals qui disparaissent. Voilà, parce qu'ils n'ont plus de fonds publics pour les financer. Donc le fait que les artistes se mobilisent, le rappellent, ne cessent de le rappeler que la culture c'est hyper important, c'est quand même très important, quoi.
C'est notre dernier sous-marin de la saison avec Angémac Sébastien Rochard.
Sniff.
Oui. Voilà donc une question dont on peut peut-être imaginer la réponse, mais je la pose quand même. Quel événement vous a marqué cette année?
Évidemment, ce 17 janvier, dont on a parlé tout à l'heure, l'attentat à Charlie, et puis dans l'hypercachère, parce que, évidemment, professionnellement, c'est un moment fort, humainement, c'est un moment fort. On a vu dans les semaines qui ont suivi des mobilisations, dans les jours qui ont suivi des mobilisations monstres, qui nous ont un petit peu réconciliés, peut-être, des fois, avec la nature humaine. Voilà, et puis alors, c'est un petit peu horrible de dire ça, mais c'était un moment important du point de vue professionnel et du point de vue journalistique, parce que ça a mis en lumière, je l'ai dit tout à l'heure, des fractures qu'on connaissait, mais dont on n'imaginait peut-être pas l'urgence et la profondeur. Donc ça nous a permis de faire ce travail-là, de commencer à faire ce travail-là d'analyse avec des acteurs des quartiers notamment, et on veut le poursuivre ce travail-là, certainement, sous une forme ou une autre, voilà, ça reste à définir, mais on veut poursuivre ce travail-là de décryptage un petit peu de ce qui s'y passe, et puis peut-être, pourquoi pas, à notre modeste échelon, à apporter aussi quelques réponses, et voilà, même si ça reste les politiques qui doivent impulser ça.
Merci beaucoup.
Merci
Sébastien Rochard d'avoir été dans le sous-marin. Merci. Également, non?
Non. Non, bon, pas tout de suite.
D'accord. Merci encore. There's a knock at your door. You don't even recognize a stranger. It's you from before. Trying to warn you all about the dangers. There's a hole in your head. At least that's what everybody's guessing. It's why you're always misread. It's why you sleep but you never feel rested. You never get your rest. Head on de Madman.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'est la troisième année que les performances artistiques prennent leur quartier sur l'île de Nantes. Du 15 au 17 mai, le bien nommé festival Performance remet donc le couvert. Et pour nous en parler, Romain Boulet, le directeur de l'événement, a répondu au téléphone. Bonjour Romain Boulet.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Millefeuille, Millefeuille qui a créé en 2013 le festival Performance. La troisième édition aura lieu les 15, 16 et 17 mai à Nantes. Avant d'aborder cette troisième édition de Performance, est-ce qu'on peut revenir sur Millefeuille, Millefeuille qui est un atelier de création, de résidence, un espace de création artistique à Nantes? Comment et pourquoi est-ce qu'il est né? Est-ce que ça manquait de lieux de création artistique à Nantes?
Oui, bah on peut même dire sur toute la région des Pays de la Loire, il n'y avait pas beaucoup de... En fait, au départ, on a monté des ateliers d'artistes. Et quand on a monté le projet, il y a eu un audit qui a été fait par l'agence AMAC. Et en fait, il s'avérait qu'il n'y avait pas d'ateliers d'artistes sur Nantes. Donc du coup, on a consacré plus de la moitié de notre bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a plus de 300 mètres carrés d'ateliers d'artistes. Ce qui représente 19 personnes qui sont sur site, qui ont leur atelier professionnel. Et puis, il n'y avait pas non plus d'espace pour produire des œuvres. C'est un petit peu compliqué de produire des œuvres pour un artiste, puisque bah, c'est pas adapté à l'industrie, j'ai des pièces uniques et tout ça. Donc du coup, on a commencé par monter un atelier bois, hein, qui est ouvert depuis décembre. Voilà, donc on accueille des artistes et on peut aussi accueillir des gens pour produire leurs œuvres. Ça peut être aussi des architectes, des designers. On n'est pas vraiment que sur les plasticiens. Non, c'est ouvert un peu à tout le monde.
Alors, il y a 2 ans, Millefeuille a donc créé le festival Performance, dont là, c'est la 3e édition. Qu'est-ce que c'est qu'une performance, Romain Boulet?
Grande question. Qu'est-ce que c'est qu'une performance? Alors, déjà, on peut dire que c'est quelque chose qui se joue en live. C'est un champ disciplinaire qui n'est pas établi. Ça n'appartient pas à un champ disciplinaire. C'est-à-dire que on trouve maintenant des musiciens qui sont dans la performance, des gens du théâtre, des gens de la poésie, des plasticiens. Voilà, c'est un peu transgenre, on va dire la performance. Et l'idée, ce qui pourrait le différencier un petit peu du théâtre, c'est qu'en fait, une performance ne se répète pas à l'avance. Elle est souvent jouée. Alors après, bon, à chaque fois qu'on tente une définition, bien sûr, des artistes vont faire des choses qui nous prouveront le contraire. Mais bon, sur la majorité, c'est souvent pas sur une scène. Hein, c'est-à-dire que les performeurs évoluent dans un espace qui est vraiment très proche du public. Voilà. Et après, ça peut prendre énormément de formes. C'est très vaste, comme je vous disais. Ça peut passer par de la musique, de la poésie. Ça peut passer par de l'art corporel. Ça peut passer par de la danse. Ça peut passer par des actions politiques aussi. Ça a été très lié dans les années 60-70. Dans le champ des arts plastiques, c'était beaucoup de performances autour de la condition féminine, toutes les causes qui sont les causes un peu des minorités.
Et aujourd'hui, en 2015, est-ce qu'on peut dire que la performance, c'est une forme artistique qu'on voit souvent?
On va dire qu'il y a, depuis quelque temps, dans le champ des arts plastiques, une intensification des performances. Mais la performance a toujours été présente, et il y a toujours eu des festivals très importants. Je prendrais à Bruxelles, par exemple, le festival performatique, qui est plutôt né au départ du champ de la scène, mais qui maintenant accueille beaucoup de plasticiens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est depuis 2, 3, 4 ans, là, depuis qu'on a commencé un peu notre festival, on sent que c'est de nouveau très vigoureux, avec des propositions qui sont très différentes de ce qu'on pouvait voir il y a une vingtaine d'années. Et puis, on sent plus les croisements, c'est ce que je vous disais, on sent plus les croisements entre les différents champs artistiques.
Alors, il y a une vingtaine d'artistes à l'affiche pendant ce festival performance. On ne va pas pouvoir être exhaustif, mais on va peut-être citer quelques noms afin que vous nous les présentiez, puis pour montrer l'éclectisme de cette programmation. On va commencer avec Frédéric Dumont. Lui, c'est un artiste qui se base sur les mots. Il interroge le pouvoir d'agir, la magie du langage.
Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est issu de la poésie. Il fait des vidéos poèmes. Voilà, alors là, ce sera sur une intervention avec un multi-écran. Voilà, c'est en même temps une projection vidéo et en même temps lui à la voix. Là, c'était un partenariat un petit peu spécial cette année, parce qu'on n'a pas encore parlé de la programmation, mais là, c'est la Maison de la Poésie qui l'invite. En fait, la particularité du festival, c'est que on invite des programmateurs, on n'invite pas des artistes en direct. On en invite quelques-uns pour l'ouverture, mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas, justement pour avoir cet éclectisme, d'inviter des gens qui vont à leur tour inviter des gens, sans avoir de thème, sans avoir de fil directeur. Et puis l'idée, c'est qu'à chaque performance, on a quelque chose de nouveau. Donc on parle d'éclectisme à ce niveau-là.
Peut-être qu'on peut justement citer ces programmateurs. Donc il y a la Maison de la Poésie, il y a l'École supérieure des Beaux-Arts de Nantes également.
Oui, tout à fait, oui.
Qui invite, elle, trois élèves, si je ne me trompe pas, Camille Colléon, Adrien Castillo et Thomas Lelan.
Lelan, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Donc oui, c'était l'idée. Alors, donc on a Joël Hubeau, qui est un performeur, mais qui est aussi invité en tant que curateur, si on peut utiliser ce mot-là. Et puis Stéphanie Hérault, elle s'occupe de l'action culturelle, donc des performances au MACVAL à Vitry, qui est le musée d'art contemporain de la ville de Vitry, voilà, qui est une spécialiste de la performance. Et puis Joël Hubeau, c'est quelqu'un qui est issu depuis il me disait que c'était depuis les années 70, en fait, il est performeur. Donc il traverse vraiment tout le champ de la performance. Il n'est pas simplement performeur, il est aussi plasticien. Et c'est quelqu'un qui a monté énormément, qui a invité énormément de gens, donc qui a une vraie connaissance de ce que c'est que la performance aujourd'hui, mais aussi la performance des années 70. Et puis donc effectivement, vous parliez de l'École des Beaux-Arts avec de très jeunes, de très jeunes performeurs, hein, qui sont mis au même plan, au même plan que les autres. On les différencie pas dans le festival. Et puis on a la chance cette année, grâce à Stéphanie, d'avoir eu Esther Ferrer. Esther Ferrer, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est historique maintenant, qui performe depuis 30 ans.
Une plasticienne espagnole.
Qui est une espagnole, qui vit maintenant en France, qui est vraiment un art très engagé, presque anarchiste. Voilà, donc on est vraiment sur... On a vraiment tout le champ entre les très jeunes artistes, des artistes qui sont plutôt de mi-carrière, comme Nicolas Fenouilla, qui lui va plutôt être autour de la musique et de la batterie. Là, ils font quelque chose autour de Sonic Youth, donc ça va être vraiment aussi très intéressant. Baptiste Brunello, qui lui est un petit peu la personne qui revient tous les ans, parce que c'était un petit peu lui qui nous avait donné envie de faire ce festival la première année en 2013, donc quand on l'avait invité. Et puis l'année dernière, on a eu un désistement, donc on l'a appelé au pied levé, il est venu reperformer. Puis cette année, on s'est dit, bon, voilà, il n'y a plus jamais 203, et donc on le fait revenir. C'est Baptiste Bonneau, c'est quelqu'un qu'on invite en direct. Pour ceux qu'on invite aussi en direct, il y a Monsieur Marcaille, qui lui aussi dans le champ de la musique.
C'est un one-man band, Evie Freak Cello.
C'est ça. Donc lui, il est catalogué, il n'est pas réellement catalogué comme performeur, mais vu qu'on le fait venir dans un festival de performance, on peut voir son travail comme de la performance. Il est dans le champ musical de ce qu'on appelle la musique freaks. Voilà. Et il fera aussi un duo avec une de ses amies, qui est le duo Aerobic Noise. Donc ils interviendront, Monsieur Marcaille interviendra deux fois du coup dans le festival. Et puis on invite aussi Gon Lewitt, là, qui est plutôt sur la question DJ, voilà, on peut dire ça. Et ça sera sur l'ouverture du festival. Donc le vendredi soir à partir de 18h30, on est sur une formule un peu un peu plus festif que la journée, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que le festival Performance, il s'adresse à tout le monde ou il faut déjà s'y connaître un tout petit peu ?
Faut être curieux. Après, il n'y a rien de très compliqué. Je pense que si on est curieux et puis qu'on n'est pas braqué en arrivant et qu'on n'a pas déjà des envies de pas aimer, voilà, c'est comme je vous disais, c'est du live. Il faut se laisser porter. Et puis l'intérêt, comme je vous disais, c'est comme c'est très différent. Bah, il y a des choses qu'on a le droit de pas aimer. On n'est pas obligé de tout aimer. Ne fait que le répéter. Il y a des gens qui aiment le death metal et puis d'autres qui préfèrent la musique classique et des gens qui aiment les deux. Donc voilà, ça va être très différent et bien sûr c'est ouvert à tous et il n'y a absolument pas besoin d'avoir lu des bouquins d'histoire de l'art pour pouvoir apprécier l'art d'aujourd'hui.
Est-ce qu'un festival comme Performance, aussi hybride, aussi curieux justement, est-ce que le fait qu'un festival comme ça existe, c'est déjà une performance ?
Je sais pas, on n'est pas les seuls à exister. La chance qu'on a, c'est qu'on est un festival un peu alternatif, c'est-à-dire qu'on est finalement on a beaucoup de liberté puisqu'on n'est pas dans une grosse institution. Après il y a la lourdeur des grosses institutions fait que on demande souvent d'avoir des thématiques ou des choses comme ça, alors que nous on peut se permettre, on peut se permettre d'être très libre. Si la liberté est une forme de performance, alors oui, je peux dire que on performe, mais en fait, ce qui nous intéresse plutôt, c'est de laisser un espace aux artistes et de leur donner des cartes blanches. Voilà, il n'y a pas de, on va pas sélectionner des performances qu'ils ont déjà fait comme c'est souvent le cas. On sait que ça va être bien. Bon, y a beaucoup de nouvelles créations, donc des artistes qui produisent pour la première fois une performance. Donc ce qu'on essaye, c'est plutôt d'être dans la générosité envers les artistes.
Merci beaucoup Romain Boulet d'avoir été à notre micro.
Je vous en prie.
everything is fine. Don't give in to despair, 'cause I love you.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
C'était I Love You Honey Bear de Father John Misty. Et pour info, le festival performance est donc de vendredi à dimanche. Ça se passe au Millefeuille, 30 quai des Antilles sur l'île de Nantes. Entrée au prix libre et vous retrouvez toutes les infos sur le www.millefeuille2cp.com. La perme de ce soir, ça se passe au Shabada. Un lundi soir n'est pas coutume. La compagnie Thé à la rue présente sa création, dévêtue à 21h. Une fête foraine thalassothérapique. L'entrée est à 8€ et promis, vous pourrez garder votre peignoir ce soir. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Les jeudis soirs, les gars de Dubway vous font un peu voyager. La semaine dernière, ils ont commencé par nous présenter Lee Perry and the Upsetters. On écoute.
Et ouais, dire qu'on n'y avait pas encore pensé. On a fait le tour du monde, on est passé par Niamey, par San José, par Murérigné. Et voilà, nous voilà de retour à Angers, quoi. Retour aux sources, à la maison. Et donc cette semaine, un petit thème back to the roots, histoire de faire le point tranquillement. On va donc surtout s'écouter des morceaux bien calmes, à l'ancienne.
Au plus grand des calmes.
À l'ancienne, ça fera plaisir à la mine, c'est plutôt cool. Et pour commencer, on va partir sur un petit son de Lee Perry avec les Upsetters. C'est Black Belt Jones et c'est sorti en 75 sur l'album... sur l'album Kung Fu Meet the Dragon, assez alambiqué quand même.
Ouais,
nom.
Des bons noms. Ouais. Bon nom d'album.
Et on vous avait déjà fait écouter Enter the Dragon, un des sons qui est sur cet album. Et dans une précédente émission, et bah voilà, c'est vraiment exactement le même type de son en fait. C'est presque expérimental, on entend carrément des bruits de raw au cours du son. Et puis plein d'autres bizarreries comme ça. Enfin, on peut dire que c'est vraiment lâché, quoi.
Bah, c'est des versions super dub, quoi.
Ouais. Non,
tout était travaillé.
Ouais, c'est ça.
Du coup, c'est plus du dub qui prend au crâne.
C'est mi-dub, mi-musique concrète, quoi. C'est presque une étude d'objet, finalement.
C'est la fin de ce sous-marin. Merci à Pierre pour la réalisation. Nous, on se retrouve demain à 19h. On parlera de Game of Thrones, puisque sur Radio Campus Angers, vous n'y échapperez pas non plus. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous!
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.